Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aurais dû dire bonjour tout à l'heure quand je m'étais présenté une première fois sur l'estrade. Mais en tout cas, c'est avec joie que je vous retrouve cette semaine pour aborder la suite de ce que nous avons vu dimanche dernier. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Et nous lirons les versets 15 à 23. Écoutons ce que Dieu dit par l'intermédiaire de Paul. Verset 15. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez ? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté, et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La semaine dernière, nous avons vu comment Paul a répondu à la question posée au verset 1 du chapitre 6. Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Non, certainement pas, puisque les chrétiens de Rome sont morts pour le péché, sont morts avec Christ. Plus précisément, la personne qu'ils étaient auparavant, inconvertis, esclaves du péché, qui méritait la condamnation, n'est plus. À la croix, Christ est mort pour le péché et par l'union que les chrétiens ont avec Christ par la foi, les chrétiens sont morts également pour le péché d'un point de vue juridique. Donc, le péché ne doit plus régner. Il n'en a plus la légitimité. Il n'est plus le maître. Désormais, celles et ceux qui sont morts pour le péché sont vivants pour Dieu. Et ils mettent leur corps au service de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Le texte de cet après-midi commence de la même manière, avec une question et une réponse catégorique de Paul. La question est la suivante. Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? La réponse de Paul, certainement pas. L'apôtre va effectivement parler du même sujet, mais en le développant différemment. Et nous avons entendu dans le texte que j'ai lu tout à l'heure un va-et-vient entre ce que les chrétiens étaient auparavant, avant de croire en Christ, et ce qu'ils sont devenus désormais, ce qu'ils sont maintenant. Avant, vous étiez ainsi, mais maintenant, grâce à Dieu, vous êtes différents. Il est tellement essentiel pour notre vie présente de toujours mieux saisir ce que Dieu a fait pour nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure, et nous le voyons encore dans ce texte. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? Il est tellement essentiel que nous puissions mieux saisir ce qui a vraiment changé pour nous depuis le premier jour où nous avons placé notre confiance en Christ. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis ce jour-là ? Et c'est essentiel pour nous de comprendre correctement ce que signifie vivre sous la grâce. mieux nous comprendrons les vérités énoncées en Romains 6, et plus notre vie correspondra à ce qui est écrit ici. Plus nous prenons le temps de méditer sur ces vérités, d'essayer de mieux les comprendre, plus notre vie va ressembler à ce qui est écrit là. Une bonne pratique découle d'une bonne théologie. Mais rassurez-vous, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre toutes ces choses. Donc nous allons y parvenir, parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous. D'abord, j'aimerais parler de ce mauvais calcul que nous voyons au verset 15 et 16. Plutôt au verset 15. Mais d'abord, le verset 14, où Paul affirmait que le péché n'aura pas de pouvoir sur ses frères et sœurs de Rome, parce qu'ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. En effet, sous le régime de la loi, ils étaient tenus d'obéir à tous les commandements sans exception. Ce qui était impossible, bien sûr. Immanquablement, ils péchaient contre Dieu et étaient condamnés. Mais sous le régime de la grâce, un autre a rempli toutes les exigences de la loi. Un autre a payé de sa vie pour leur condamnation. Sous la grâce, ils sont pardonnés, ils sont déclarés justes. Et alors commence une nouvelle vie. Mais voici le mauvais calcul. Si nous sommes sous la grâce où tout nous est pardonné, alors nous pouvons pécher sans craindre de perdre notre salut. Nous pouvons continuer de pécher sans avoir peur de perdre notre salut, puisque tout nous est pardonné. Quel mauvais calcul! Et au verset 15, le « certainement pas » de Paul est sans doute énergique. Certainement pas. Nous n'allons certainement pas pécher parce que nous sommes sous la grâce. Le calcul est très mauvais. Et personne d'entre nous ne devrait comprendre la grâce de cette manière, comme un régime sous lequel nous pouvons pécher en toute impunité. Ne savez-vous pas, verset 16, que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et tout au long de son développement, Paul va parler d'esclavage pour bien indiquer que personne n'est maître de lui-même. Et il existe deux esclavages. Le premier, il est mauvais, il mène à la mort, et le maître de cet esclavage, c'est le péché. Le deuxième est un bon esclavage. Il conduit à une vie conforme à ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et le maître de cet esclavage, c'est Dieu, le Dieu que nous adorons cet après-midi. Paul est en train de dire, ne croyez pas que vous n'êtes pas quelque part esclave. Vous êtes nécessairement esclave de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un, ou quelque chose. Ne croyez pas que vous n'êtes pas quelque part esclave. Il nous arrive de penser que nous sommes entièrement autonomes, entièrement indépendants, libres, que nous n'avons besoin de personne, que nous savons très bien gérer notre vie. Mais les choix que nous faisons indiquent toujours pour quel maître nous vivons. Et derrière nos décisions, nous obéissons bien à un maître. Et pendant son ministère, Jésus avait enseigné la même chose, en disant à ceux qui se pensaient esclaves de personne. Jean chapitre 8, versets 34 à 36, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Si le Fils de Dieu n'intervient pas pour nous libérer, nous restons encore esclaves du péché. Mais la bonne nouvelle est que le Fils est venu pour libérer, afin que nous soyons réellement libres par rapport au péché. Il n'y a définitivement rien de bon à rester esclave du péché. Et pourtant, bon nombre de nos contemporains le sont. Revenons au mauvais calcul. Pourquoi est-ce un mauvais calcul de penser que sous la grâce, nous pouvons pécher allègrement? Parce que celui qui pêche, de manière obstinée, est en train de jouer le jeu du péché. est en train d'obéir au péché, est en train d'agir comme son esclave. Or, il est impensable qu'un chrétien puisse continuer à être esclave du péché. Ce serait vivre comme si Christ n'avait rien fait pour nous, puisque notre vie ne change pas. Toute l'humanité est répartie dans ces deux catégories. Les uns sont les esclaves du péché, et s'ils continuent ainsi, sans être libérés, ils courent vers la mort. Ils courent vers le châtiment éternel. Ils courent vers la séparation éternelle avec Dieu. Et les autres sont les esclaves de l'obéissance, qui caractérise celles et ceux qui vivent pour Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. S'ils continuent ainsi, ils courent vers la vie éternelle, vers la communion éternelle avec Dieu. Nous comprenons bien cette réalité qu'il y a deux esclavages. Parce que dans la Bible, nous avons toujours la mention de deux chemins, de deux voies qui sont totalement opposées, de deux destinations qui sont totalement différentes. Et tous ici, nous sommes en ce moment dans l'une ou l'autre catégorie. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont dans la catégorie esclaves du péché peuvent en sortir, en être libérés. Et il est essentiel que nous comprenions, en tant que chrétiens, que nous ne sommes plus dans cette catégorie-là, esclaves du péché. Le souci est plutôt que bien souvent notre comportement manque de cohérence. C'est là que vient la tension dans notre vie. C'est là que nous nous rendons compte, mais je suis chrétien et je continue de pécher. Le souci, c'est que bien souvent notre comportement manque de cohérence. Nous ne vivons pas selon notre nouveau statut. Nous n'obéissons pas toujours au bon maître. Et si nous nous en rendons compte cet après-midi, il est toujours temps de réagir. Il est toujours temps de se réajuster. Il est toujours temps d'écouter Dieu dans ce qu'il dit ici et de lui obéir. Et voici ce qui va nous aider. L'apôtre Paul va justement parler de ce changement qui s'est produit dans la vie des croyants. C'est l'objet des versets 17 à 19, ce que Dieu a fait. 17 à 19. Paul loue Dieu, vous le voyez au verset 17. Il remercie Dieu pour l'obéissance de ses frères et sœurs en Christ. Que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Paul, sans connaître toute la vie de ses destinataires, peut dire sans se tromper qu'avant de devenir chrétien, ils étaient esclaves du péché. Vous n'avez pas besoin de connaître le passé de quelqu'un pour le savoir. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous étions aussi esclaves du péché. Nous faisions partie de cette catégorie. Notre maître était le péché et il dominait sur nous, sans que nous puissions nous en défaire. Le péché orientait notre vie, toute notre vie. Nous étions ses esclaves. Mais Dieu soit loué, car les chrétiens de Rome ont obéi. Si vous voulez, pour la première fois, ils n'ont pas obéi au péché, mais ils ont obéi à Dieu. C'est là que le péché perd son pouvoir de domination. Parce que pour la première fois, un de ses esclaves lui désobéit. Grâce à Dieu qui leur a fait connaître l'Évangile, ils ont répondu positivement. Et comme vous le remarquez au verset 17, Paul est en train de dire « Vous avez obéi de tout cœur, c'est-à-dire sans contrainte, volontairement vous l'avez fait. Vous avez obéi à Dieu, vous avez obéi à son enseignement volontairement. » N'est-ce pas ce qui s'est passé pour nous lorsque nous avons reçu le message de l'Évangile? Nous avons obéi à Dieu de tout cœur. Il n'est pas facile ici de savoir à quel enseignement Paul fait allusion dans ce verset 17. Parce que, en plus, lorsqu'on consulte les commentateurs, on se rend compte que les réponses sont très variées. Mais sans doute, est-ce l'enseignement qui est en lien avec l'Évangile, avec le message de la grâce de Dieu? Et peut-être faut-il ajouter les rudiments de la foi chrétienne. En tout cas, à cet enseignement-là, ils ont obéi de tout cœur. Ils ont mis leur foi en Christ. Ils ont entendu l'évangile et ils ont cru. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la première fois, ils ont désobéi à leur ancien maître, le péché. Que Dieu soit remercié parce qu'il est intervenu dans notre vie et que nous avons obéi. Sans lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui, mais toujours esclaves du péché errant dans le monde. Alors oui, avec Paul, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s'est passé au moment où Dieu a changé notre cœur, pour que nous puissions obéir. Et Paul joue sur le registre de l'esclavage. Regardez le verset 18. « Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Vous étiez esclaves du péché, vous avez été libérés par le Seigneur, et vous êtes maintenant esclaves de la justice. Et dire les choses ainsi semble un peu gênant. Nous étions esclaves, et même une fois libérés, nous sommes encore esclaves. C'est pourquoi Paul s'explique sur le langage qu'il emploie. « Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. » Parce que naturellement, vous avez du mal à comprendre. Paul n'est pas en train d'insulter leur intelligence, mais il souligne la réalité qui est aussi souvent la nôtre, que nous sommes parfois lents à comprendre. Lents à comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Lents à comprendre que nous sommes ce que nous sommes devenus grâce à sa libération. Oui, nous ne sommes plus les esclaves du péché, mais nous sommes devenus des esclaves de la justice. Ce qui est en fait bien meilleur, et c'est ce que nous allons voir. Ce que Paul est en train d'expliquer, c'est qu'en recevant la liberté par rapport au péché, nous ne nous retrouvons pas sans aucun maître à qui obéir. Avec ce verset 18, nous comprenons que en fait, nous sommes passés d'un maître à l'autre, d'un mauvais maître qui paye un mauvais salaire, comme nous allons le voir tout à l'heure, à un maître qui est infiniment bon et qui accorde dans sa grâce la vie en abondance. Voilà ce qui s'est passé pour nous. Nous sommes passés d'un maître à un autre. Il n'y a pas de terrain neutre. Nous ne sommes pas dans un entre-deux. Soit nous obéissons à l'un, soit nous obéissons à l'autre. Jésus lui-même disait que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Est-il possible que nous ayons oublié cela, frères et sœurs ? Que nous ayons oublié que nous avons été libérés du péché, dans le sens que le péché n'est plus notre maître. Cela ne signifie pas pour autant que nous avons perdu la capacité de pécher. Malheureusement, en cette vie, nous péchons encore. Mais la différence significative avec notre vie d'avant, c'est que ce n'est plus le péché qui oriente notre vie, mais c'est Dieu. C'est là la différence capitale. Et donc, pour savoir dans quelle catégorie nous nous trouvons, nous devons nous poser une seule question. Qui est ton maître ? Qui dirige ta vie ? À qui obéis-tu matin, midi et soir ? Mais si nous sommes chrétiens, Paul l'affirme, nous avons été libérés de la domination du péché et nous sommes devenus esclaves de la justice. Et en évoquant le fait que nous sommes des esclaves, cela nous rappelle deux choses. Premièrement, nous appartenons désormais à notre maître. Il a des droits sur nous et il peut nous demander tout ce qu'il veut. Deuxième réalité, dans ce rôle d'esclave, notre part est d'obéir à notre maître afin d'accomplir tout ce qu'il veut. Quand Christ a donné sa vie sur la croix, et quand il est revenu à la vie, ressuscité d'entre les morts, il a rendu possible cette libération de la domination du péché sur nous, afin que nous puissions avoir une autre vie que celle que nous avions autrefois, afin que nous puissions avoir un nouveau départ avec le Seigneur. Et si nous avons bien changé de maître, eh bien il faut aussi changer d'attitude. Nous n'allons plus nous comporter comme lorsque nous étions esclaves du péché. Nouveau maître, nouvelle attitude. Et c'est ce que nous allons voir maintenant des versets 19 à 22, ce que nous devons faire. C'est dans ce contexte que Paul reprend l'exhortation qu'il avait donnée au verset 13. Et je lis donc le verset 19. « De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice, pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice, pour progresser dans la sainteté. » Paul pense peut-être, en évoquant le passé des chrétiens de Rome, il pense peut-être à la vie ordinaire des païens qui se livraient à toutes sortes de péchés, à toutes sortes de débauches. Autrefois, ceux à qui Paul s'adresse menaient une vie immorale, s'enfonçant toujours plus dans le péché. Autrefois, même s'ils ne connaissaient pas Dieu, eh bien, ils péchaient contre Dieu. Ils pratiquaient l'injustice. L'injustice dans le sens qu'ils faisaient ce qui n'était pas juste aux yeux de Dieu, ce qui n'était pas conforme à sa loi. Mais maintenant qu'ils ont été libérés du péché, qui n'est plus leur maître, il ne reste qu'une seule manière de vivre, celle qui consiste à obéir à Dieu, et plus précisément à mettre ses membres, son corps, au service de la justice. Et ce n'est pas ici un appel à devenir un justicier. La justice dont il est question ici concerne toujours le fait de se comporter selon la loi de Dieu, de faire ce qui lui plaît, de faire ce qui est conforme à sa volonté. Et comme au verset 13, Paul exhorte ses destinataires à bien utiliser leur corps pour accomplir ce que Dieu demande. Et nous, mettons-nous nos membres au service de ce qui est juste aux yeux de Dieu? Est-ce que nous utilisons notre corps pour ça? Pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Réfléchissons à ce que ça signifie dans notre contexte actuel. Si nous reprenons les deux commandements les plus importants et qui résument toute la loi, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même, comment est-ce que nous impliquons nos membres pour obéir à ces deux commandements? Qu'est-ce que nous faisons de notre corps pour pouvoir obéir à ces deux commandements de Dieu? Et je me suis rendu compte cette semaine qu'en cherchant à appliquer cette exhortation, cela demande de la réflexion. Je dois réfléchir chaque jour à ce que je vais faire de mon corps et comment il peut être au service de Dieu et de sa justice. Chaque jour, je dois me poser la question, parce que chaque jour, j'utilise mon corps. Mettez vos membres comme esclaves au service de la justice. Ça, c'est l'exhortation de Paul. Comment puis-je faire cela quand je me rends au travail ou quand je télétravaille? Comment je peux mettre mon corps au service de la justice quand je suis à la maison avec ma famille, ou quand je croise mon voisin, ou quand je suis à l'église, ou quand je vais au cinéma, ou quand je fais du sport? Comment je fais cela? Comment mon corps peut-il servir Dieu et faire sa volonté? Et en se posant cette question, je me suis rendu compte aussi que je suis davantage en maîtrise de mon corps. Je me rends compte que j'ai plus de maîtrise sur mon corps en me posant la question « qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je vais faire avec mon corps ?» Ça m'oblige à m'arrêter et à me dire « attention, ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. » Et je trouve que cette exhortation est importante et particulièrement pertinente de dire « mettez vos membres au service de Dieu, mettez votre corps au service de Dieu et de sa justice. » Cela nous oblige à réfléchir, comment je vais faire ça? Cela nous oblige à nous arrêter, à nous dire, attention, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi avec ce corps. Et chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et c'est là que nous sommes en train d'expérimenter cette maîtrise de soi. Maîtrise sur son corps, notamment. Et c'est vrai que tout se passe en nous d'abord. Tout se passe au niveau de nos pensées. Tout se passe. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps de la réflexion. Cette semaine, posons-nous jour après jour cette question. Comment puis-je mettre mes membres au service de ce qui est juste, au service du Seigneur ? Comment puis-je aimer mon prochain avec ma bouche, par exemple ? As-tu remarqué cet ami ou ce collègue ou ce proche qui a besoin d'être encouragé ou consolé ? Qu'est-ce que tu peux faire avec ta bouche et qui puisse servir le Seigneur, qui puisse servir sa justice ? Comment puis-je aimer Dieu avec mes yeux et mes oreilles ? Peut-être en veillant à ce que mes yeux ne servent pas à convoiter. Ou en veillant à ce que mes oreilles ne soient pas complices de plaisanteries douteuses, de moqueries ou de ragots. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et c'est pourquoi nous abandonnons tout ce qui est impur. Nous abandonnons tout ce qui déplaît à Dieu au plus haut point. Nous abandonnons tout ce qui faisait autrefois nos délices avant de connaître Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la domination du péché parce que Dieu est notre nouveau maître. C'est lui qui dirige notre vie et c'est à lui que nous obéissons désormais. Et Paul revient sur le passé de ceux qui croient maintenant. Verset 20. « En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Et quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui. Car leur fin, c'est la mort. » Autrefois, être esclave du péché permettait de ne pas être tenu de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. On n'était pas obligé. Parce que de toute façon, Dieu n'était pas notre maître. Pourquoi lui obéir ? En ce sens, avant d'être chrétien, eh bien, nous étions libres de faire tout ce que nous voulions, sans nous préoccuper de la loi de Dieu. Mais cette liberté est trompeuse lorsque nous nous arrêtons sur les fruits produits. Et quel genre de fruits ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui. Peut-être que si vous repensez juste quelques instants à votre passé, avant de connaître le Seigneur, il se peut bien que nous ne soyons pas fiers de ce que nous avions autrefois la liberté de faire. Nous en avons honte parce que nous prenons conscience que notre ancienne conduite, dictée par le péché, conduisait à la mort, méritait la mort. Quelle honte, en effet. Et la destination de ce chemin en pente descendante était une mort assurée et éternelle. Imaginez un instant, une voiture dévalait à toute vitesse une pente et au bout de cette pente se trouve un précipice. À moins d'un sauvetage, cette voiture n'a aucune chance de s'en sortir. Et nous ne sommes pas dans un film où la voiture s'arrête pile avant le précipice. Dans la vie réelle, nous savons que la voiture va mal finir. Et nous devons nous rendre compte que nous étions comme cette voiture qui allait tout droit vers le précipice. Et voyez comment Dieu est intervenu dans sa grâce pour arrêter notre course folle dans cette direction. Pour que nous cessions de produire des fruits qui nous font honte et qui mènent à la mort. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché. Ce passé était le nôtre, c'est vrai, mais aujourd'hui nous vivons sous la grâce. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Tout chrétien a été libéré du péché par le Seigneur. Cela ne vient pas de nous, c'est lui qui nous a libérés. Tout chrétien est aussi devenu esclave de Dieu. Et là non plus, cela ne vient pas de nous. C'est lui qui nous a rendus esclaves de lui. Dieu nous a libérés de notre ancien maître pour que nous puissions lui appartenir et nous mettre à son service. Et depuis que nous sommes à son service, eh bien, quel est le fruit que vous voyez dans votre vie ? Un fruit qui nous encourage cet après-midi, la progression dans la sainteté. Depuis que nous sommes à son service, nous voyons ce fruit dans notre vie. Tout chrétien est engagé sur ce chemin de la sanctification et au bout de ce chemin se trouve la vie éternelle. La sanctification, si on devait l'expliquer, la présenter, c'est d'abord un processus qui a cours tout au long de notre vie terrestre, jusqu'à notre mort, ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne avant notre mort, peut-être. La sanctification, c'est cette transformation qui est nécessaire, que le Saint-Esprit opère pour nous rendre toujours plus semblables à Christ. C'est ce qui caractérise la vie de tout croyant. Si nous sommes chrétiens, nous sommes engagés dans ce processus de sanctification. Et dans ce processus de longue haleine, nous nous éloignons toujours plus du péché. D'année en année, nous le prenons en dégoût. Nous le détestons, comme le Seigneur le déteste. Vous savez, ce qui montre que nous ne sommes pas parvenus à la perfection, ce n'est pas seulement le fait que nous péchions encore, mais c'est le fait que nous aimions encore le péché. C'est ça qui montre que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Et parce que nous continuons d'aimer encore le péché, eh bien nous péchons. Voilà ce qui est problématique. Voilà ce que Dieu veut régler dans notre vie. Dieu n'aime aucun péché. Dieu n'aime pas ce qui conduit à la mort. Dieu déteste ce qui constitue une révolte contre lui, une injure à l'égard de sa majesté et de sa sainteté, un mépris pour tout ce qu'il considère comme juste. Dieu déteste cela. Et puisque nous sommes ses esclaves, nous devrions aussi détester le péché. À commencer par le péché que nous commettons. En tout cas, nous sommes en chemin pour détester toujours plus le péché sous toutes ses formes. Et ainsi, de progrès en progrès, nous devenons un peu plus proches de notre modèle qui est Jésus-Christ. De progrès en progrès, nous nous rapprochons de la perfection, mais sans l'atteindre dans cette vie. Parce que je sais que ma sanctification est l'œuvre maîtrisée du Seigneur, qui la mènera à bien jusqu'au bout. Je sais qu'il maîtrise cela, qu'il maîtrise cette transformation. Eh bien, puisque je sais cela, je peux envisager avec confiance de faire des efforts. La vie chrétienne est faite d'efforts. Et ces efforts, je les ai évoqués quand Paul nous a exhortés à mettre notre corps au service de la justice. Je relis le verset 19. « Mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » Vous voulez faire des progrès dans votre sanctification? Mettez vos membres comme esclaves au service de la justice. Nous avons notre part à faire, tout en sachant que Dieu est à l'œuvre. Donc nous pouvons y aller avec confiance. Et je l'ai dit la semaine dernière, sans le Saint-Esprit dans notre vie, il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de progrès dans la sainteté. Mais puisque le Saint-Esprit agit en nous, même si nous ne comprenons pas très bien comment, eh bien, en toute confiance, nous pouvons obéir à cet impératif de faire en sorte que notre corps, nos membres, servent la justice, fassent ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pas seulement une fois, ni deux, mais tout au long de notre vie. Nous savons que c'est ce qui honore Dieu. Nous savons que c'est ainsi que nous vivons pour sa gloire et que de cette manière, nous devenons toujours plus semblables à Christ. Et c'est tout ce qui peut m'encourager dans mon ministère en tant que pasteur. C'est de savoir que Dieu s'occupe de vous et qu'il vous rendra semblable à Christ. Mais ce ne sera pas sans nos efforts. Ce ne sera pas sans notre obéissance. La sanctification, c'est le merveilleux fruit que vous pouvez constater dans votre vie et dans la vie de vos frères et sœurs. De voir qu'ils sont en train de progresser et de devenir toujours plus comme Christ. Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et enfin, le verset 23, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et nous n'avons pas besoin d'être longs sur ce dernier verset. Il est connu en général des chrétiens, mais peut-être pas toujours dans son contexte. Voici donc l'ultime contraste entre les deux voies, entre les deux esclavages. Pour celles et ceux qui restent au service du péché, ils reçoivent un salaire des plus terribles, le salaire de la mort. Imaginez que vous travaillez dans un cadre magnifique, confortable, le travail est facile. Comprenez, péché est facile. Mais à la fin du mois, après avoir bien travaillé, vous découvrez que le salaire, c'est la mort. Pour des esclaves du péché, il n'y a pas d'autre paiement que celui de la mort. Tout simplement parce que pécher contre Dieu mérite la mort. Donc le travail qu'on faisait autrefois, avec joie et plaisir, quand nous étions esclaves du péché, méritait la mort. C'était le salaire. C'était la juste condamnation que Dieu réserve à tout pécheur. Par contraste, par opposition, Dieu accorde la vie comme un don non mérité, un don gratuit. Ce n'est pas un salaire. Dieu ne donne pas de salaire. Dieu donne un don gratuit. Et cette vie éternelle est pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ, pour celles et ceux qui sont unis avec Christ par la foi. Si quelqu'un n'est pas uni à Christ, il ne peut pas espérer obtenir la vie éternelle. Dieu fait ce don encore aujourd'hui et t'appelle à l'accepter en venant à Jésus avec confiance. Viens à lui. Viens à lui en sachant qu'il est mort pour toi, qu'il a payé pour tes fautes, qu'il a apaisé la colère de Dieu à ton égard, qu'il donne la liberté par rapport au péché et que dès cette vie, il te transformera pour que tu sois semblable à lui. Par sa parole, Dieu nous appelle cet après-midi à lui consacrer toute notre personne, ce qui mobilise nos membres, notre corps. Est-ce que nous voulons retrouver cet élan, ce feu, ce zèle ? Rappelons-nous quel était notre passé honteux. Rappelons-nous ce que Dieu a fait en nous libérant de la domination du péché. Rappelons-nous qu'il est maintenant notre maître. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, mais on doit quand même se poser la question en toute honnêteté, est-ce que nous aimons ce maître ? Il me semble que si nous l'aimons de tout notre cœur, nous serons prêts à consentir à tous les efforts possibles pour faire sa volonté. Mais si nous n'aimons pas ce maître, alors bien sûr, nous ne ferons pas d'efforts. Est-ce que nous aimons notre maître ? Parce que c'est peut-être là que nous commençons à retrouver ce zèle pour lui. Que nous commençons à retrouver cet amour si fort que peut-être nous avions autrefois. Mais la question qui se pose, c'est depuis le temps, est-ce qu'aujourd'hui nous aimons toujours autant, avec autant de force, de tout notre cœur, de toute notre pensée, notre maître ? Parce que sans cela, c'est tellement difficile d'appliquer ce que Dieu nous demande ici. Et c'est ce que Dieu attend de l'Église de Saint-Maur. Que nous soyons ses esclaves dévoués, qui lui obéissent de tout cœur, par amour pour lui, par reconnaissance pour son salut. Alors oui, par amour, mettons nos membres à son service, dans l'obéissance à sa parole, dans tous les domaines de notre vie, jour après jour, jusqu'à ce que nous parvenions à notre destination, la vie éternelle, avec le Maître que nous aimons. Et j'ajouterai juste une dernière chose. C'est vrai que nous pouvons servir Dieu parce qu'il y a des besoins. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça ne doit pas être la motivation première. Si nous voulons servir Dieu, c'est parce que nous l'aimons, que nous voulons lui obéir, parce qu'il est notre maître et que nous sommes ses esclaves. Voilà pourquoi nous servons dans l'Église. Et je voulais faire ce rappel aussi. Nous ne servons pas à l'Église parce qu'il y a des besoins en premier lieu, mais parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur et que nous sommes prêts à tout pour notre Maître. Prions ensemble. Nous devons bien reconnaître, Seigneur, que nous connaissons bien des échecs à pouvoir faire ta volonté. Bien trop souvent encore, Seigneur, nous reconnaissons nos manquements devant tes commandements. Tu nous demandes de faire quelque chose, mais pour diverses raisons, nous n'obéissons pas. Tu nous demandes de pouvoir servir et aimer notre prochain, mais bien souvent, c'est nous-mêmes que nous voulons servir. Tu nous demandes de servir à l'Église par amour pour toi, mais parfois, eh bien, nous oublions que c'est par amour pour toi que nous devons le faire. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Pardon parce que nous oublions aussi, nous oublions que tu nous as libérés du péché, que le péché n'est plus notre maître, que nous n'avons plus à lui obéir, que nous n'avons plus à être à son service, que notre corps ne sert plus les intérêts du mal, mais que désormais nous t'appartenons, nous sommes à toi, et notre corps t'appartient, et notre corps est à ton service. Accorde-nous, s'il te plaît, que cela puisse porter du fruit dans notre vie. Un fruit tel que nous l'avons évoqué, des progrès dans la sainteté, dans la sanctification. Oui, Seigneur, c'est cette œuvre que tu es en train de faire en nous et cela nous encourage parce que nous pourrions nous dire « c'est tellement difficile ». Nous pourrions nous dire « je ne vois pas de progrès dans ma vie ». Mais pourtant, si nous croyons en ta parole, nous sommes certains que tu es en train de faire quelque chose. Mais tu nous demandes d'obéir. Tu nous demandes de mettre tout notre corps, tous nos membres, toute notre personne au service de la justice. Permets-nous de le faire, Seigneur, durant la semaine qui est devant nous. Permets-nous de te servir jour après jour, jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la fin de ce chemin, où nous recevrons cette vie éternelle, une vie en abondance, une vie pleine de joie, loin du péché. Sans péché. C'est cette vie-là à laquelle nous aspirons, semaine après semaine. Oui, Seigneur Jésus, reviens. Reviens vite. Oui, nous voulons hâter ton retour, Seigneur, pour pouvoir entrer dans cette vie de plénitude où le péché ne pourra plus rien contre nous. Merci pour cette espérance que tu nous donnes. Merci de nous garder encore près de toi et de nous permettre de t'aimer toujours plus et de détester toujours plus le mal. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.